Ok, donc on va commencer, si tu veux, notre premier cours sur le chapitre 34. Donc en fait, le Tanya est découpé en cinq parties. Et la première partie du Tanya comporte 53 chapitres. Donc là, dans l'étude qu'on a fait dans les 3 dernières années, hein, pas tout le monde est arrivé encore, il y en a qui arrivent, on est arrivé au 53e chapitre, mais au cours de l'étude, on avait manqué le chapitre 34. Alors, on est déjà arrivé au 53, mais on a manqué le chapitre donc 34, et c'est le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, je voudrais situer un petit peu de quoi on est en train de parler dans le Tanya pour expliquer, donc pour comprendre la suite de quoi on est en train de parler. On a expliqué dans les chapitres 51, 52 et 53, on a expliqué le concept du Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est le temple? Qu'est-ce que représente le temple? D'accord? Le Beth Amikdash. On a expliqué que de la même manière que... Tu vois, j'ai appelé, on a déjà commencé. Messieurs! Allez, allez! On y va, on y va. C'est l'heure.
Alors?
On avait expliqué que de la même manière, bonsoir, de la même manière que dans le corps d'un homme, on a le centre nerveux, qui est le cerveau. Et après, c'est le centre nerveux, c'est lui qui va dispatcher, c'est lui qui va donner les ordres au reste du corps. De la même manière, on a expliqué que dans le monde, dans le judaïsme, on explique qu'il y a un centre nerveux. C'est quoi le centre nerveux du monde? Le centre nerveux, on a expliqué, notre centre nerveux, c'est le Beth Amikdash, c'est le Saint-Temple. Et on a expliqué comment au travers du Beth Amikdash, c'est au travers du Beth Amikdash que la divinité passait. Elle est peut-être cassée, je prends une autre.
Vas-y.
Non, elle est soit cassée, soit bancale. Voilà, avec.
Et voilà. Et voilà.
Quelle page on a dit?
49.
Oui, non, non, mais là, on prend le chapitre 34. 84. Donc on a expliqué, je suis en train de dire, que de la même manière que dans le corps d'un homme, il y a un centre nerveux, de la même manière, dans le monde, il y a également un centre nerveux. Ce centre nerveux du monde, c'est quoi? On a expliqué, c'est le Beth Amikdash. C'est au travers du Beth Amikdash que vont passer les différents ordres et les différentes énergies, entre guillemets, que les différentes émanations qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu doit nous envoyer. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, le problème qu'on a, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Donc si on n'a plus le Beth Amikdash, bah, c'est comme si tu dis qu'il y a un homme qui n'a plus de cerveau, qui n'a plus de centre nerveux. Ben, dans ce cas-là, il meurt. C'est pas bon. Il y a un problème. Et c'est là que la semaine dernière, on a retracé 3 grandes périodes dans l'histoire juive. Vous vous rappelez? On a expliqué qu'il y avait une première période dans l'histoire juive qui était l'époque du premier temple. Seconde période, c'était la période du second temple. Et la troisième période, c'est la période qui est aujourd'hui, jusqu'à, donc, depuis la destruction du second temple, jusqu'à, si Dieu veut, très bientôt, la construction du troisième temple. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence, donc la caractéristique qu'il y avait dans chacune de ces 3 périodes? On a expliqué que dans la première période, à l'époque du premier temple, on ressentait clairement le divin. Et on va développer ça un peu plus aujourd'hui. On ressentait clairement le divin, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de passer par des explications. On ressentait le divin, on vivait le divin, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'expliquer à une personne qui vit. J'ai pas besoin de me dire, mon cœur il marche, donc je vis. Ah, je vis, c'est évident, c'est normal. On dit que les gens, à l'époque du premier temple, ressentaient le divin comme quelque chose d'évident. Comme quelque chose de vivant, c'était normal. À l'époque du second temple, on a expliqué, on ressentait le divin, mais c'était plus aussi fort. D'ailleurs, on a expliqué la semaine dernière les différences qu'il y avait entre le premier et le second temple, comment il y avait des phénomènes miraculeux qui sont passés dans le premier temple, qui ne sont pas passés dans le deuxième. C'est pour exprimer le fait que dans le second temple, on ressentait le divin, mais rien à voir avec le premier temple. Ça, c'était la deuxième période. Et la troisième période, on a expliqué, c'est depuis la destruction du temple. Donc là, dans ce cas-là, on a dit, le centre nerveux du monde, c'est devenu quoi? C'est devenu les Arba Amot Shel Halacha, c'est-à-dire c'est devenu l'étude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut retrouver Dieu, on ne retrouve pas Dieu ni au travers de la synagogue, ni au travers de la maison d'études, ni au travers de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on retrouve Dieu au travers du travail personnel. Maintenant, pour arriver à faire un travail personnel, alors on va avoir besoin des fois d'aller à la synagogue, on va avoir besoin de faire beaucoup de choses. Mais le but de la synagogue et le but de tout ce qu'il y a autour, c'est pour arriver à une seule chose, pour arriver au fait que la personne se travaille et qu'il fasse un sacrifice personnel. C'est-à-dire qu'avant, le sacrifice était à Jérusalem, mais bon, quand à Jérusalem, on faisait le sacrifice, ça rendait quitte tout le monde. Aujourd'hui, depuis la destruction du Beth Amikdash, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que dorénavant, le travail ne se passe plus de manière globale, le travail se passe de manière individuelle, chez chacun de nous. Chacun de nous doit faire un sacrifice personnel, et c'est ça notre sacrifice, c'est ça notre centre nerveux interne. Alors aujourd'hui, dans le chapitre 34, le sacrifice, c'est les efforts. quand une personne va faire un effort. Quand même, en français, tu vois, sacrifice, ça veut dire ça aussi, quand une personne va faire un effort. Quand, par exemple, une personne va essayer... Alors, on va expliquer aujourd'hui. Tu poses une bonne question, tu dis, c'est quoi le sacrifice? Est-ce que le sacrifice, c'est l'étude? Est-ce que le sacrifice, c'est donner la tzedaka? Est-ce que le sacrifice, c'est faire ce qui m'est difficile? Et si quelque chose m'est facile, est-ce que c'est un sacrifice? Hein, à l'époque du Beth Amikdash, dit, il faut offrir un sacrifice à un animal. Ben, imagine-toi que quelqu'un, pour lui, payait 2000 euros pour une vache, rien du tout pour lui. Est-ce que ça s'appelle un sacrifice? Ça, on va développer aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. À l'époque, c'était relativement simple. Il y avait un mode d'emploi, il fallait offrir un sacrifice, il fallait faire telle chose, bon, c'était relativement facile. Mais aujourd'hui, tu me dis que c'est un travail personnel. Ben, si c'est un travail personnel, personne n'est le même que l'autre, on n'est pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on appelle un sacrifice? Comme ça, on va décortiquer aujourd'hui dans le chapitre 34. Tu vois, Yaakov, chapitre 34, tu appelles en télé?
Non.
C'est celui qu'on avait sauté.
Ouais.
Page 85. Tu prends la page après 85. Donc pour comprendre ça, voilà, on va essayer de parler un peu plus des tzadikim. D'accord? On va essayer de parler un peu plus des tzadikim. Des tzadikim, ça veut dire des justes. Des tzadikim. Et on va expliquer qu'en vérité, pour les tzadikim, il n'y a pas ces trois périodes. Là, on a retracé trois périodes dans l'histoire juive. Il y a premier temple, deuxième temple, et après la destruction. Premier temple, on a expliqué, c'est un dévoilement qui est très fort. Second temple, un dévoilement qui est plus léger. Et à partir de la destruction du deuxième temple, il n'y a plus rien. Si tu veux trouver quelque chose, il faut faire un travail interne. Alors, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que pour les tzadikim, au niveau des tzadikim, ils sont automatiquement au niveau du premier temple. Ça veut dire que pour eux, c'est comme si, il y a une phrase dans le Zohar très intéressante, qui dit que, pour les tzadikim, c'est comme si que le temple n'a jamais été détruit. Une phrase très célèbre de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans laquelle il dit que si je demande le Beth Amikdash, donc la reconstruction du Beth Amikdash, c'est uniquement pour les autres qui, eux, ne voient pas le Beth Amikdash comme moi.
C'est étonnant ce que tu dis.
Très étonnant. Hein.
Parce qu'on dit que le niveau des rabbins aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des Tanaïm.
C'est bien. Je parle de, justement, on va expliquer. On parle pas de vivant, on parle de ce qu'ils ressentent. Ah. Donc, on a trois niveaux, mais ce qu'on va expliquer, c'est que les tzadikim en sont au premier niveau. En fait, le point qu'on va retenir, le point qu'on va décortiquer dans l'heure qui suit, c'est que une personne ne doit pas s'en vouloir s'il n'est pas comme un tzadik. On va décortiquer dans les premières lignes qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un tzadik, et comment un tzadik est carrément dans une autre planète. Et après, on va expliquer comment on ne doit pas s'en vouloir si on n'est pas comme ça, puisqu'on est conçu différemment. C'est-à-dire qu'une personne ne doit pas se dire « Oui, je suis pas sadique, j'ai tout perdu, j'ai rien gagné, je suis nage, je suis catégorie B, catégorie C, pas du tout. » Ce qu'on va expliquer, d'abord on va expliquer comment le sadique ressent, et pourquoi le sadique est carrément sur une autre planète, il a rien à voir avec nous. Et après on expliquera, il est comme ça, on va voir. Et après on va expliquer pourquoi le fait que nous on n'est pas comme ça, on n'a pas à se reprocher, c'est pas un défaut, c'est pas un défaut de fabrication, c'est que simplement on n'est pas conçu de la même manière et qu'on n'a pas les mêmes buts, les mêmes notions. Donc on prend le chapitre 34, on va aller un peu vite. Veine modazot, c'est connu ce que les sages ont dit. She'avot en amerkava. Dans le Midrash, on nous explique, on nous dit que les patriarches, donc les premiers tzadikim que nous on a connus dans l'histoire, de notre peuple, c'est les patriarches. C'est vrai qu'on a eu Adam Arishan, on a eu Noar, mais les premiers desquels on commence réellement à parler, et qu'on analyse leur comportement, c'est les avot. Les avot, c'est les patriarches. Donc on l'a déjà répété plusieurs fois. Les avot en hen a merkava. Les avot, les patriarches, sont comparés à une merkava. Merkava en hébreu, ça veut dire quoi?
Un char.
Un char. Ça veut dire quoi un char? Pourquoi on appelle un char?
Un véhicule.
De la même manière que oui.
Soumis.
Ça veut dire quoi soumis? Alors donne-moi un exemple. Pourquoi on appelle un char? De la même manière qu'un char n'a pas de volonté propre. C'est pas qu'un jour le char, c'est pas qu'un jour je prends le volant de la voiture, je décide, je tourne à droite, et le volant il va dire attends, je tourne à droite ou je tourne pas à droite. Il n'y a pas, tu tournes, il tourne, c'est tout.
Des fois, il n'y a pas de mécanique.
Okay, il est cassé. Mais il n'y a pas de volonté propre. Il n'y a pas de volonté propre. De la même manière, le Midrash, pour illustrer ça, il dit que les patriarches sont appelés Merkava. Les patriarches étaient le char de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de volonté propre. D'accord? Vous savez dans les mots? Ils n'avaient pas de volonté propre. C'est pas qu'ils réfléchissent, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Dieu m'a demandé de faire la Mila, par exemple, pour Abraham. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Il n'y a pas, il réfléchit. Il ne réfléchit pas. Pourquoi il ne réfléchit pas? Pas parce qu'il décide de pas réfléchir, parce qu'il s'est tellement annulé à Dieu qu'il devient comme un char. Là, vous allez voir dans les lignes qui vont suivre, on va nous montrer que les patriarches et les tzadikim sont carrément sur une autre planète. C'est-à-dire nous, si on accepte, si on fait ce que Dieu nous demande, c'est déjà pas mal. Attends, C'est pas qu'on te dit, fais comme si que t'as pas de volonté propre. Attends, j'ai une volonté propre, et si j'arrive à écraser cette volonté, c'est déjà pas mal. Eux, non seulement qu'ils font ce qu'on leur demande, mais ils ont même pas de volonté propre, donc il y a même pas d'effort pour eux. C'est facile. D'accord?
C'est Dieu qui est le pilote de ce char.
Exactement, c'est Dieu qui est le pilote. C'est même pas difficile pour eux. Tu demandes à un tzadik de pas écouter son mauvais penchant, pour lui c'est facile. Je vais expliquer. Chez Kol Yemem Leolam, Lo Ifsiku Afilu Shahat. Il dit que tous les tzadikim, pendant toute leur vie, Leolam Avi, Lo Ifsiku Afilu Shahat, ils ne sont pas arrêtés même un seul instant, mais les kasher datam venishmatam, les ribon naolamim bevitul anal, les yichudo itbarer. Il n'y a pas un seul instant de leur vie qui n'était pas dévoué à Dieu. J'essaie d'illustrer ça avec une petite histoire. Le rabbi avait raconté l'histoire une fois, d'une proche de sa famille qui s'appelait la rabbanit Scheindel. Une femme qui s'appelait la rabbanit Scheindel. Elle a raconté que lorsqu'elle était petite, son oncle, qui était le rabbi précédent, lui avait dit, quand elle était petite encore, elle lui a dit, écoute, ma petite fille, il faut que tu t'habitues à faire tout ce que tu fais pour Shabbat. Ça veut dire que toute la semaine, tout ce que tu fais dans la semaine, tu dois le faire pour Shabbat. Alors, il raconte que la petite fille a réfléchi. Elle a dit, manger pour Shabbat, ça je peux le faire. D'accord, boire pour Shabbat, je peux le faire. Bon, à la limite, je peux dire que dans la semaine, je prends des forces pour Shabbat. Mais elle a dit, papy, une chose, je peux pas réussir, dormir pour Shabbat. Que toute la semaine, quand je dors lundi soir, je dors pour Shabbat, j'arrive pas à comprendre, c'est pas possible. Comme ça, elle a dit. Et ça, le rabbi, il a dit que ça illustre en vérité ce qu'on est en train d'expliquer ici. Que pourquoi les tzadikim sont sur une autre planète? Parce que eux, même quand ils dorment, tout ce qu'ils font, il n'y a pas un seul instant de leur vie qui n'est pas dévoué à Dieu. Ça, pour nous, c'est impossible. Et elle a été sincère, cette fille-là. Elle a dit, dormir pour Dieu, je ne peux pas. J'arrive pas, c'est pas possible. Dormir toute la semaine pour Shabbat, c'est pas possible. Le tzadik, s'en a expliqué. Le tzadik, lui, il est Loïf Siku Afilou Shahat, même un instant, les patriarches ne se sont pas arrêtés même un seul instant pour être là en train de constamment et en train d'essayer de développer et de comprendre et de voir ce que Kadosh Baruch Hu veut et comment je vais faire encore plus plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les tzadikim. Ve'achariem, après les tzadikim, kol ha-nevi'im, kol echad lefi madrigat tishmato vasagato. Ensuite, dans chaque génération, on a eu des prophètes. Rappelez-vous ce qu'on va expliquer. La semaine dernière, on a expliqué qu'il y a trois grandes périodes dans l'histoire juive. Il y a la période du premier, la période du second Beit Hamikdash, et enfin la période où on est maintenant, qui n'est ni l'un ni l'autre, il n'y a rien du tout, on est en train de préparer le troisième. Alors, ce qu'on va expliquer ici, c'est que les tzadikim, eux, sont constamment au niveau du premier Beit Hamikdash. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'émanation divine, c'est en clair pour eux. Alors, on a parlé des patriarches. On a dit que les patriarches, c'est même pas qu'ils ont un libre arbitre et qu'ils décident de tout faire pour Dieu. Tellement ils se sont annulés à Dieu, d'accord, qu'ils n'ont même plus de réflexion, ils ne réfléchissent même plus. Il va donner un exemple tout de suite avec Moshe Rabbeinu. L'exemple moderne qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu après les prophètes, c'est quoi? Qu'on a eu, pardon, après les tzadikim, c'est les prophètes. D'accord? Pourquoi les prophètes? On dit que les prophètes n'étaient pas, un lapsus révélateur, les prophètes n'étaient pas forcément savants. Vous savez, quand on parle des prophètes dans la Torah, les gens pensent que les prophètes, c'est des gens qui étaient savants. C'est une erreur. On a eu dans l'histoire des prophètes qui n'étaient pas du tout savants. Parce que quand ils avaient une question de halakha, ben ils allaient voir les rabbanim. Et pourtant, les rabbanim n'étaient pas prophètes et eux étaient prophètes. Alors c'est quoi prophète? C'est quoi un prophète chez nous? Un prophète, c'est pas quelqu'un qui a la connaissance. Un prophète, c'est quelqu'un qui arrive à se dévouer à Dieu. À se dévouer à Dieu avec une ferveur que pas tout le monde peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut être rave, on peut connaître la halakha. On peut connaître la halakha par cœur, comme un code juridique, mais on peut ne pas avoir le niveau d'un prophète. On va y arriver. D'accord? Ça, c'est le prophète. On peut avoir une variante de prophète, mais le vrai prophète, on peut pas. Le vrai prophète, c'est impossible. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. D'accord? Ah, tu veux voir Yaakov? Je crois pas. Alors. Ve'achareem, kol ha-nevi'im, kol echad, kefim, le madrigat, nishmato, va'asagato. Donc ensuite, on a eu tous les prophètes, qui eux aussi sont comme les patriarches. Encore une fois, pour être prophète, faut pas être savant. Pour être prophète, faut être dévoué. Mais c'est un niveau de dévotion que si on n'a pas, on peut pas l'avoir. C'est un cadeau de Dieu, du ciel. Ou madrigat, Moshe Rabbeinu, alav ha-shalom, i'aola al-kulana. Le niveau de Moshe Rabbeinu, tu as trouvé? Il n'y a pas, hein. Moi je pense pas, il n'y a personne qui m'a ramené une carte à lui. Alors. Il n'a même pas été cherché, il l'a perdu. ou Madrigat. C'est bon? Alors. Ou Madrigat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Iaola al Kulana. Le niveau de Moshe Rabbeinu est le niveau qui dépasse tous. Ça veut dire que le Moshe Rabbeinu est le plus grand prophète qu'on a pu connaître. Ça, je reprends un épisode de la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a raconté? L'histoire de Myriam.
C'était un savant.
D'accord? C'était aussi un savant. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dernière avec Myriam? Il dit que Myriam et son frère ont parlé contre leur frère, enfin, contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit qu'ils étaient étonnés qu'il n'était plus avec sa femme, quoi.
Ils ont dit qu'ils étaient étonnés parce qu'ils ont appris que Moshe Rabbeinu n'était plus avec sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent les commentaires a priori? Les commentaires disent que c'était du Lashon Hara. D'accord, Lashon Hara, c'est-à-dire que c'était de la médisance, et qu'à cause de ça, Myriam a été punie par Dieu, etc. Bon, ça c'est la paracha de la semaine dernière, la fin de la paracha de la semaine dernière. Bon. Le problème est que quand on analyse les commentaires, quand on analyse par exemple le commentaire du Horachaim, du Horachaim, on comprend qu'en vérité, dans ce que Myriam a fait, il n'y avait pas du tout de Lashon Hara. Je m'explique. Le Lashon Hara, la médisance, pour être passif de médisance, comme c'est expliqué dans le livre donc du Rafet Sraïm, c'est expliqué que si je dis de la médisance devant la personne en question, d'après beaucoup d'avis, on n'est pas passible du c'est pas considéré de la médisance. Par exemple, si je parle, d'accord, si quelqu'un y parle sur moi et que je suis là, étant donné que je peux me défendre, je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais c'est pas appelé de la médisance. Le Rahim nous dit que quand Myriam a parlé avec son frère Aaron, sur Moshe, Moshe Rabbeinu était présent. Donc a priori, c'est pas de la médisance. Premier point. Deuxième point, le Rahim nous dit que quand Myriam a parlé avec son frère Aaron pour essayer de parler du problème de leur frère Moshe, qui n'était plus avec sa femme, ils ne l'ont pas dit en tant que médisance, mais ils l'ont dit en tant que tochacha, en tant que remontrance. Or, il y a une autre halakha dans la halakha du Lashon Hara, qui dit que si je suis en train de parler avec quelqu'un, je lui dis, écoute, tu sais, on a un ami commun qui a un problème, même s'il n'était pas là, mais on ne le dit pas en tant que médisance, on le dit en tant que remontrance, c'est pas du Lashon Hara. D'accord? Et pourtant, on voit que Myriam a été punie. Myriam a été punie, Dieu leur a passé un savon, il leur a dit, comment vous avez pu parler sur Moshe Rabbeinu? Allez, je prends le Chumash. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention à ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on me disait, oui, Myriam, elle a fait la Lashon Hara. Ouais. D'accord? Vous allez voir, c'est complètement autre chose. Si on suit le Rachaim, c'est complètement autre chose. Lorsque Dieu, donc à la fin de la paracha, la semaine de la paracha, Baalotra. Lorsque Dieu va gronder à Aaron et Myriam. Alors, dire, comment vous avez pu parler contre Moshe? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Vayomer, il leur a dit, Shimuna devaray, imien eviachem Hashem, bamar e elavet vata, bachalom adaberbo. Dieu leur a dit, écoutez bien. Vous, Myriam et Aaron, vous êtes prophètes. Mais à vous, je m'adresse à vous dans le rêve. Lochen avdi Moshe, alors que mon serviteur Moshe, Bechol beti nemanou, il est toujours fidèle à moi, dévoué. PLP Adaberbo ou ma rêve l'obéchidot. Lui, Moshe Rabbeinu, je ne lui parle pas au travers d'un rêve, mais je le parle littéralement, c'est-à-dire bouche à bouche. Ça veut dire que c'est direct. Ou ma doua le yeretem le daber beavdi be Moshe. Comment ça se fait que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon esclave, contre Moshe Rabbeinu? Si on sait ce que je viens d'expliquer, en vérité, le problème qu'il y a à la fin de la paracha la semaine dernière, c'était pas du tout du Lashon Hara. Parce que si on suit la halakha du Lashon Hara, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Il n'y a pas de problème, Lashon Hara. Premièrement, Moshe Rabbeinu était là, il pouvait se défendre. Deuxièmement, même si tu me dis qu'il n'était pas là, Myriam a dit ça en tant que remontrance. En tant que remontrance, il n'y a pas d'interdiction de la Lashon Hara. Qu'est-ce qu'on a reproché? Vous lirez la traduction après si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a reproché à Myriam et à Aaron? On leur a reproché de parler contre Moshe. Ça veut dire le problème n'était pas ça veut dire s'ils avaient dit ce qu'ils avaient dit sur une autre personne, ils avaient dit comment il n'est pas avec sa femme, ça serait acceptable, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu leur a reproché, il leur a dit, je relis les mots, « Oumadoua le yeretem le daber beavdi be Moshe, pourquoi vous n'avez pas eu peur avant de parler contre mon esclave Moshe ?» Ça veut dire que ce n'était pas du tout un problème de la Shonara. Ce n'était pas du tout un problème de la Shonara, c'était un problème que Myriam et Aaron n'ont pas été capables d'apprécier la qualité et l'importance de leur frère Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que Dieu leur reproche. Quand Dieu il les appelle, il les rappelle à l'ordre, il leur dit pas hein, pourquoi vous avez dit du Lashon Hara. Non. Il leur dit pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler contre Moshe. Vous ne savez pas qui est votre frère. Et là, ça conforte ce qu'on est en train d'expliquer ici. Que de tous les prophètes qu'on a connus de tous les temps, Moshe Rabbeinu a toujours été le plus grand prophète. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Moshe Rabbeinu? Parce que rappelez-vous, On a expliqué que le tzaddik, le prophète, c'est quoi la caractéristique d'un prophète? C'est que le tzaddik ne... C'est pas que le tzaddik comprend, le tzaddik voit ce qui se passe. On a dans l'histoire des fois des tzaddikim qui n'étaient pas savants. Encore une fois, je le répète. Qui n'étaient pas savants, c'est-à-dire tu lui demandes d'expliquer ce qu'il a vu, il n'est pas capable. D'accord? Non, il y a aussi les tzaddikim. Tu lui demandes de t'expliquer. Enfin, par exemple, il vient te dire, écoute, je vois quelque chose. Il dit, mais expliquez-moi. Il n'est pas capable. Et c'est vraiment, il n'est pas capable. C'est pas qu'il te dit, je suis pas capable parce qu'il avait envie de se prendre la tête. Il est vraiment pas capable. Pourquoi il est pas capable? Parce que être tzaddik, ça ne veut pas dire forcément comprendre les choses. Ça, c'est être savant. Ça, c'est être rave. Être tzaddik, c'est pas ça. Ça peut être aussi, il peut être aussi savant. Mais être tzaddik, c'est pas ça. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui voit les choses. Et le fait de le voir, c'est pas forcément, c'est pas forcément quand je vois quelque chose que je l'ai compris. Je peux te dire, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, comment la machine elle marche, je peux pas t'expliquer comment et pourquoi. Mais par contre, je l'ai vu. Ça, je suis sûr que c'est comme ça. La particularité qu'avait Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, il avait un niveau de vision, il avait une possibilité de voir les choses comme personne n'a jamais vu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer ici? Dans le texte que je viens de dire. Dieu a dit, à vous, à Aaron et Myriam, qui étaient déjà des grands prophètes, d'accord? À vous, je m'adresse dans le rêve. On l'a expliqué il y a 3 semaines, c'est-à-dire quoi dans le rêve? Le rêve, ça veut dire dans un état second. Alors que Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de passer par un état second. D'accord? Dans les mots. Ça, c'est le concept du tzaddik. Ou madrigat. Je sais pas à quelle ligne je sais ici. Alors, prenez la 6e ligne. 6e ligne, voilà, il y a une abréviation. Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme. Ici. Ou madrigat Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme, Iaola al Kulana. Le niveau de Moshe Rabbeinu parmi les tzadikim, parmi les prophètes, parmi les patriarches, parmi tout ce que vous voulez, lui c'est le niveau le plus fort qui a existé et qui existera. Shamu alav, comme les chachamim ont dit sur lui, c'est écrit dans le Zohar, Shrina medaberet mitor grono. Que la Shrina, donc l'émanation divine, parlait par la gorge de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, moi ma gorge elle sert à quoi? Ma gorge sert à exprimer ma parole. C'est-à-dire, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire quelque chose. Donc la gorge, c'est un quoi? La gorge, c'est un outil pour exprimer ce que j'ai dans le ventre, ce que j'ai envie de dire. D'accord? C'est comme ça que ça se passe chez nous tous. Bien, même si on peut contrôler sa gorge, mais à quoi elle sert la gorge? La gorge, c'est un outil. C'est un outil qui est maîtrisé par l'homme. C'est-à-dire, j'ai envie de dire quelque chose, je vais le dire au travers de ma gorge. Alors, on nous dit que Moshe Rabbeinu, sa gorge, d'accord, était un outil dans les mains de Dieu. On retrouve ça dans le schéma. On a déjà dit, dans le schéma... C'est écrit que Moshe Rabbeinu, à un certain moment, Moshe Rabbeinu, il parle, et il dit, si vous allez suivre les mitzvot, j'amènerai les plantations, d'accord, dans le champ. Alors tout de suite, bien sûr, Rachid s'arrête, il dit, mais attends, c'est pas Moshe qui amène, c'est Dieu qui amène, c'est quoi cette histoire? Pourtant, Moshe, des fois, Moshe, il dit, Dieu enverra, Dieu donnera. Et là, Moshe, tout d'un coup, il dit, je donnerai. Alors, il dit, je donnerai. Et là, là-bas, Rachid explique qu'à là-bas, à ce moment-là, il dit que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, était un outil dans la main de Kadosh Baruch Hu. Et que c'était Dieu qui était en train de parler au travers de sa gorge.
Ça veut dire qu'il a été dans une situation où il a rapporté la parole de Dieu.
Oui. Et à un moment donné, il a déjà été comme ça, oui.
Et à un moment donné,
ouais. Un moment donné
c'est tellement effacé, c'est-à-dire.
C'est plus qu'effacé, c'est devenu un outil. Parce que quelqu'un qui est effacé, c'est quelqu'un qui décide d'être effacé.
Mais pourtant, le porte-parole, c'était pas lui, c'était...
Oui, c'est vrai. Mais là, on dit qu'il avait une particularité que personne n'avait, que personne n'aura.
Pourquoi il se sert de lui? C'est-à-dire, il n'a pas besoin de Moshe pour s'adresser au...
Si,
on a vu quand il s'adressait directement.
On a parlé d'un problème. On va parler juste après. Il va dire que si, quand Dieu s'adresse directement, on ne tient pas. On est obligé de passer par un intermédiaire. Alors en passant, d'accord, puisque j'en parle déjà, il y a un texte dans le Zohar très intéressant qui dit Mantmene à Adam Hashem, Dar Rabbi Shimon Bar Yochai. Très intéressant le texte. Il dit comme ça. Il dit que c'est écrit qu'à un certain moment que vous verrez la face de Dieu. Et là-bas, le Zohar, il dit, c'est qui la face de Dieu? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, c'est qui la face de Dieu? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr, il y a les commentaires autour qui viennent. C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Un autre texte encore du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans lequel Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Anna Simana Be'alma. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais je suis uniquement un signe. Ça veut dire, je suis uniquement une icône ici. Mais en vérité, je représente quelque chose qui est plus haut que moi. On n'arrive même pas à comprendre, c'est impossible. Nous, le maximum qu'on arrive à faire, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est déjà dur. Histoire de faire à 100% ce qu'il veut.
C'est un raccourci.
Lui, c'est même pas qu'il fait la volonté, c'est que carrément, il a pas de volonté propre. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui-même qui le dit. Il dit, c'est qui la face de Dieu? En d'autres termes, c'est moi. Parce que le Zohar qu'il a écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, c'est qui la face de Dieu? C'est moi. Avant, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est une déification de Rabbi Shimon Bar Yochai? Là, on a la réponse. Qu'en vérité, le tzaddik, de la génération. Donc on a Moshe Rabbeinu, et de la même manière, dans chaque génération, on a un tzaddik, un ou plusieurs, qui ont une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Qui sont une émanation de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et ces tzaddikim-là, ils ont une qualité particulière parmi tous les autres tzaddikim. C'est quoi leur qualité? C'est que eux, ils sont tellement annulés à Kadosh Baruch Hu, qu'en vérité, quelque part, ils sont une représentation de Dieu. C'est Dieu. C'est dur à comprendre. Même, je pense même pas qu'on peut comprendre.
Bon, alors c'est pas étonnant qu'ensuite il y en a un qui s'est pris pour Dieu et puis ils ont posé l'emploi aussi.
Ou mais Enze, on va y arriver.
C'est exactement ça. Ils ont vécu à la même
époque. Oui. Oui.
Alors pourquoi
ils n'avaient pas le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Et aujourd'hui, qu'on peut savoir qui
Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit qu'une fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en train de parler avec son fils. Il a dit, s'il y a 1000 tzadikim, d'accord, s'il y a 1000 tzadikim dans le monde, mon fils et moi, nous en faisons partie. Ensuite, il est parti en descendant, d'accord, en décrescendo. Il a dit, s'il y en a 100, mon fils et moi, on en fait partie. S'il y en a 10, etc. Chacun est arrivé à, s'il y en a 2, c'est mon fils et moi. Et s'il y en a qu'un, c'est moi. Vous prenez quelqu'un qui parle comme ça, on dit, mais il est fou celui-là, pour qui il se prend? C'est l'égoïsme pur, ça. Seulement, quand ça vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, on comprend qu'il n'est pas en train de dire ce qu'il pense. Il est en train de dire ce que Dieu pense.
Oui et non.
Non, c'est ça.
Oui et non, puisque lorsqu'il sort de la grotte, il met le feu au champ.
Pareil.
C'était pas la volonté de Dieu.
C'est son fils, pas lui.
Non, c'est lui.
C'est son fils. C'est pas lui. C'est son fils Camille. Lui, il a rien fait, lui. C'était la volonté de Dieu. Il représentait la volonté de Dieu. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici. Oumé enze, Zachou Israël be Mamad Har Sinaï. Ce même niveau qu'on vient de dire. Donc rappelez-vous. Ce premier niveau, c'est quoi ce premier niveau? Ce premier niveau, on a expliqué c'est quoi? Ce premier niveau, ça veut dire le fait de voir le divin, de sentir le divin à tel point qu'on devient un réceptacle du divin. C'est un niveau que les Bnei Israël, donc que tout le peuple juif a ressenti. Be Mamad Har Sinaï, c'est un autre sujet de toutes les façons, ça n'a rien à voir. Be Mamad Har Sinaï, c'est quelque chose que les Bnei Israël ont ressenti, Be Mamad Har Sinaï, à l'instant où on était au Mont Sinaï et qu'on a reçu la Torah. Ça veut dire que quand on a reçu la Torah, à ce moment-là, tout le peuple juif avait ce même niveau de Moshe Rabbeinu de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que tout le peuple juif était uniquement le vecteur du divin. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça n'a pas duré.
Pourquoi ça n'a pas duré? Parce qu'on n'était pas conçu pour ça. C'est pour ça qu'on a raconté plusieurs fois ce Midrash qui dit que après chaque parole que Dieu disait pendant les 10 commandements, on mourait. D'accord, c'est l'expression pour dire quoi? Pour dire qu'on n'était pas fait pour ça. On n'était pas conçu pour ça. C'est-à-dire qu'il faut être conçu pour ça.
Il
faut être conçu pour ça. Pourquoi? Pour avoir le niveau comme Moshe Rabbeinu. Le niveau comme Moshe Rabbeinu, ça veut dire que je peux être le vecteur du divin en restant l'homme que je suis. Il faut être conçu pour ça. Celui qui n'est pas conçu pour ça, il s'en va. Il brûle. C'est comme dans l'électricité. D'accord? Si t'es pas conçu, tu brûles. Quand t'as...
Tu mets 1000 volts dans un truc qui ne peut conduire que du tout,
il explose. C'est la même chose. Donc, Dieu nous l'a donné pour nous montrer voilà ce que vous aurez à terme. À terme, c'est-à-dire quand Machiav viendra, il nous a montré voilà ce que vous aurez à terme, mais on n'a pas tenu. Et c'est évident qu'on n'a pas tenu, parce qu'on ne peut pas tenir, parce qu'encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai expliqué au début du cours, c'est pas un problème si on n'a pas tenu. Parce qu'on n'est pas conçu pour ça. Il y a des gens qui sont conçus pour ça. Il y a des Neshamot qui, depuis qu'elles descendent, Dieu dit, toi, t'es conçu pour ça. T'es conçu pour tenir, on peut t'envoyer un gros voltage, tu bouges pas. Mais nous, on n'est pas conçu pour ça.
Mais c'est pas ce qui a fait la différence entre Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, et Rabbi Akiva. Par exemple, quand tu dis que on va dire que Dieu parlait à travers lui.
Oui. C'est pour ça que j'ai expliqué au début du cours. J'ai dit que il y a des rabbins et il y a des tzadikim. C'est possible que Rabbi Akiva était plus grand savant que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très possible. Et il y en a même des textes qui le disent. Il n'y a pas de problème, ça. C'est possible qu'il était plus savant. C'est possible qu'il était plus fort en étude. C'est pas un problème, ça. Rabbi Akiva était aussi un tzadik. Mais parmi les tzadikim, le tzadik le plus grand de la génération, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est clair, sans équivoque. Ça ne veut pas dire que c'était le plus fort en Torah. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'était celui qui avait la perception du divin la plus claire. La plus claire. C'est lui qui voyait le plus clair. C'est lui qui avait les meilleures lunettes. Voilà. C'est même pas des lunettes. C'était que Dieu s'était intégré en lui de manière à ce que s'il veut voir Dieu, il voit en soi. Ça, c'est unique. On ne cherche pas à être comme ça. C'est pas notre but. On veut simplement expliquer pourquoi on n'est pas dans la même ligue. Donc chez Ouinyan, Mamar Botenu Zichona Livracha, chez Alkol Dibour, Pachan Ishmatam Proulé. Ce que je viens de dire, comme ce que les Chachamim ont dit dans la Gemara Shabbat, qu'après chacun des 10 commandements, notamment les 2 premiers commandements, nos Neshamot sont partis, les Neshamot de tout un chacun du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conçu pour ça. Chez Inyan, Bitul, Bimtsiut, Anna. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est le fait d'être annulé à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? La reine, c'est pour ça. Miyad, Tiva, Lasot, Laem, Mishkan. Bon. Donc encore une fois, rappelez-vous, on est en train de retracer trois grandes périodes. On a expliqué que les tzadikim, eux, ont une vue du divin de manière à ce que ça fait partie d'eux. Très bien. Dieu, quand il nous a donné la Torah, il nous a donné le même niveau que les tzadikim. Ça veut dire qu'il s'est apparu à nous, de la même manière qu'il s'apparu aux tzadikim, ça veut dire qu'il s'est apparu à nous en live. Le problème qu'on a eu, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas tenu, on n'a pas supporté. Donc si on n'a pas supporté, bah, ça veut dire qu'il faut passer par un adaptateur. D'accord ? On est d'accord ? Transformateur. Faut passer par... Bien sûr, seconde. Il y a un plan qui est très clair là. Donc il fallait passer par un transformateur. Entre temps, c'est quoi le transformateur ? Non. Le transformateur qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre juste après le don de la Torah. Quoi le transformateur ? C'est le Mishkan. Le Mishkan qui est l'équivalent du Beth Amigdash par la suite. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le transformateur ? Ça veut dire que nous, quand on veut s'adresser à Dieu, on s'adresse à Dieu au travers du Mishkan. Comme le verset qu'on dit à propos des trois...
Attends.
Ah oui, justement. Ah ouais. Comme ce qu'on dit à propos du Beth Amigdash, on dit que trois fois par an, on devait venir... Pourquoi on devait venir ? Shalosh Pamim Bashana, Yera'e Kol Zechuchat Pinadan Hashem. On dit qu'on venait au Beth Amigdash pour voir Dieu, et pour que Dieu nous voie. Ça veut dire quoi, voir Dieu ? C'est-à-dire que dorénavant, une fois que Dieu a compris que... C'est pas que Dieu a compris, il savait, bien sûr qu'il savait. Qu'on ne peut pas percevoir le divin directement... On doit forcément passer par un transformateur. C'est qui ce transformateur ? C'est le Mishkan. Maintenant, après, les tzadikim peuvent nous aider à comprendre ce que le Mishkan dit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tzadikim, pour parler avec Dieu, n'ont pas besoin du Mishkan. N'ont pas besoin de ce transformateur. Ils sont eux-mêmes transformateurs. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, pour moi, le Beth Amigdash n'a jamais été détruit. Il dit clairement dans le Zohar, il dit, pour moi, le Beth Amigdash n'a jamais été détruit. Et si je prie tous les jours, je demande à Dieu tous les jours de reconstruire le Beth Amigdash, c'est uniquement pour les autres qui ne voient pas ce que je vois.
Donc le Mishkan et le Beth Amigdash sont utiles pour les autres.
Exactement.
Et seulement pour...
C'est un transformateur pour les autres. C'est-à-dire que pour lui, bien sûr qu'il offrait certainement qu'il y a le Beth Amigdash, il aurait offert ce sacrifice comme tout le monde. Mais il n'a pas besoin de ça pour percevoir le divin. Nous, c'est un transformateur. Lui, il n'a pas besoin du transfo. Non, si on lui demande, on lui dit qu'il faut faire un sacrifice, il fera. Mais il n'a pas besoin du transformateur pour accéder au divin.
Attention du grand public.
C'est un adaptateur.
C'est ambigu ce que
tu dis. Oui, c'est pour ça que j'ai un adaptateur au début.
C'est ambigu ce que tu dis.
Tu veux dire que t'as pas compris ?
Je dis que c'est ambigu.
Tu n'as pas été assez clair.
Je n'ai pas été assez clair. Tu n'as pas été assez clair. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que juste après, il y a Nathan Aviou qui rentre dans le temple et poum, ils explosent. Or, qu'est-ce qu'ils disent, Moshe et Aaron ? Ils étaient plus grands que nous. Ils avaient un niveau plus grand. Ils n'ont pas besoin de l'adaptateur. Donc eux, pour eux, c'est évident. Pourquoi ils meurent lorsqu'ils rentrent ?
Ça, c'est pas clair. Ça change pas. Ils ont un niveau plus fort.
Ils ont un niveau plus fort.
Ils ont un niveau plus fort parce que peut-être leur neshama est plus forte. Mais encore une fois, le fait même qu'ils sont rentrés à l'intérieur et qu'ils ont brûlé, ça veut dire qu'ils n'étaient pas conçus pour. Bah oui.
Ils ont un niveau plus fort.
Non. Le fait même qu'ils n'ont pas... Encore une fois. C'est pour ça que j'ai bien fait la différence. J'ai bien fait la différence. En vérité, tout le Ham Israël avait le niveau de Nadav Aviou. Parce qu'au moment du don de la Torah, on avait tous ce niveau-là. Sauf qu'on n'est pas conçu pour ça. C'est pour ça que Nadav Aviou n'ont pas tenu, puisqu'ils n'ont pas conçu pour ça. Peut-être leur Neshama avait un niveau plus haut, c'est pas la question, ça. On n'est pas là en train de... Mais leur Neshama n'était pas conçu pour percevoir le divin en live.
Quand Nabucodonosor, il rentre dans le Kodesh HaKodeshi, quand ensuite l'empereur romain, il rentre dans le Kodesh,
oui.
Il n'y arrive rien, à vérité.
Oui. À ce moment-là, il n'y avait plus la Shrina. La Shrina était déjà partie.
Elle était partie.
C'est écrit.
Il avait
on en a déjà parlé. D'accord. Alors, la reine, c'est pour ça.
Quelle ligne c'est ?
La reine, c'est pour ça. Miyad, il faut attendre d'abord. Il faut attendre qu'on avance un peu d'abord. La reine, Miyad, Siva, Lahem, Lasot, le Mishkan. Oui, Bashgacha, Pratit, le chapitre 34, il vient vraiment à la suite du chapitre 53. Pourtant, si on le fait maintenant, c'est parce que quand on a étudié, on l'a sauté sans faire exprès. Ouais, comment il vient vraiment à la suite de ce qu'on a expliqué.
53,
c'est
35.
Extraordinaire. Alors, la reine, c'est pour ça. Sivat, miyad, siva, lahem, la sot, le mishkan. C'est pour ça que tout de suite après le mont Sinaï, Dieu leur a ordonné de faire un mishkan, de faire un sanctuaire. Pourquoi ? Comme explique Nachmanide, il dit à quoi sert le sanctuaire ? Le sanctuaire sert à ressentir le divin, d'accord? Le sanctuaire sert à avoir la même sensation qu'on avait au Mont Sinaï. Nachmanides le dit clairement, je vous dis dans les mots. Il dit « Cheyé akavod asher shachen al har Sinaï, shochen alav benistar ». Il dit que à quoi sert le Mishkan, donc le Mishkan l'équivalent du Beth Amikdash dans le désert, il sert à ressentir les mêmes choses qu'on a senties au Mont Sinaï, sauf qu'on passe par un transformateur, par un adaptateur.
Et comme tu as dit tout à l'heure, par exemple, le Tzadik, on a dit qu'il n'avait pas eu besoin du Beth Amikdash.
Oui.
Et tout à l'heure, tu as dit au début du cours que pour ressentir ça, il fallait passer par l'étude.
Non, j'ai dit comme ça, j'ai dit qu'au début, j'ai dit que les tzadikim, eux, n'ont même pas besoin de l'étude pour percevoir le divin. Ils étudient parce qu'ils doivent aussi étudier, mais ils n'ont pas besoin de ça pour percevoir le divin. Mais nous aujourd'hui, qui n'avons pas le Beth Amikdash et qui, enfin moi je suis pas tzadik en tout cas, d'accord, pour percevoir le divin, le peu qu'on perçoit, le sacrifice d'aujourd'hui, c'est le sacrifice au travers de l'étude et de l'action.
Est-ce qu'on est obligé de l'étude de percevoir le divin?
Non. Non.
Non. Donc on peut tout à fait étudier sans avoir cette
idée. On peut étudier toute sa vie sans rien percevoir.
Non, ou même sans avoir l'idée de pouvoir percevoir.
C'est pas le but, non.
C'est pas le but. On peut même sans le fait pour étudier pour
c'est
le percevoir elle-même.
Non, c'est clairement pas le but. Non, mais même si d'abord il y a des gens qui peuvent étudier toute leur vie sans percevoir le divin.
Et sans vouloir d'ailleurs, sans avoir
sans vouloir, c'est
sans
pas un but.
La pensée non. De le faire.
Sans vouloir du tout. Alors, dans les mots, Ubo. Kotché à Kodashim l'ashrat shrenato. Donc si on comprend bien, ça veut dire qu'un tzadik n'a pas de vie. Qu'un tzadik, constamment, il est en train d'être un outil dans la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il décide, bon, aujourd'hui, il n'a même pas de kiff, ça veut dire.
Totalement.
Vous savez, des fois, quand on fait la volonté de Dieu, on réussit à combattre son etc., on a un certain plaisir, une certaine satisfaction. Lui, il peut même pas avoir cette satisfaction parce que c'est pas un effort pour lui. C'est normal, c'est naturel. C'est autre chose, c'est une autre ligue. Ubo. Kotché à Kodashim l'ashrat shrinato, shehu gilou yichudo itbarer, kemo shidber le kaman. Donc, dans le Mishkan se trouvait le Kodesh à Kodashim. Dans le Kodesh à Kodashim, c'est l'endroit dans lequel Dieu se révélait, comme on expliquera plus loin, ou plus loin, dans le chapitre 53 qu'on a étudié la semaine dernière. Hein, c'est un rapport.
T'as fait exprès d'avoir
ce Ah non, j'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai reproduit. D'accord. Ou plus loin, dans le chapitre 53. On a expliqué que dans le Beth Amikdash se trouvait le Saint des Saints, et que dans le Saint des Saints se trouvait la perception divine au même niveau que ce qu'il y avait au Mont Sinaï, le centre nerveux du monde, rappelez-vous. Ou Mishéchara, Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash était détruit. Donc on a eu deux phases dans le Beth Amikdash. On a eu une phase, on a eu dévoilement très fort. Deuxième phase, on l'a dit, c'est le deuxième Beth Amikdash, dévoilement moins fort. Mais il y avait quand même quelque chose. C'est-à-dire quand on venait au Beth Amikdash, on ressentait quelque chose. Depuis que le Beth Amikdash était détruit, Mishacharav Beth Amikdash, En le Akadosh Baruch Hu Beolamo, quand Machon le Shifto ou Yichudoid, Mishkan ou Machon le Shifto ou Yichudoid Barer, Arba Amot Shel Alacham. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le seul Mishkan, le seul sanctuaire qu'on connaît, c'est quoi? Il n'y a pas de sanctuaire aujourd'hui. C'est quoi le seul sanctuaire qu'on connaît? C'est, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est les Arba Amot de Alacha, c'est-à-dire c'est l'étude. Et qu'au travers de l'étude, d'accord, Shehu retzono itbarer verochmato amlubashim be'alachot aruchot lefanenu, qui sont la volonté de Dieu, qui est au travers de la halacha. Alors on avait donné un exemple dans le chapitre 4 pour expliquer ça. Il avait donné un exemple qui est ramené aussi dans le Zohar, qui dit que lorsqu'une personne enlace le roi, d'accord, personne n'a envie d'enlacer le roi. Il dit la chose suivante, il dit que le roi a un vêtement ou 1000 vêtements, on dira toujours qu'il a enlacé le roi. Et même si quand il enlace le roi qui a 1000 vêtements, il se rend plus compte qu'il est en train d'enlacer le roi, mais ça ne change pas que dans la réalité, il est en train d'enlacer le roi. Il avait expliqué, donc il avait donné cette illustration pour expliquer que même si aujourd'hui quand on étudie la Torah, on ne ressent pas du tout ce qu'ils ressentaient à l'époque. Alors c'est comme si qu'à l'époque ils avaient un vêtement, après ils ont eu deux vêtements, maintenant ils ont 1000 vêtements. Mais ça ne change pas que l'action est la même. Que quand on étudie la Torah et quand on étudie les mitzvot, on est en train d'étudier la volonté divine, donc c'est la même chose. Sauf que quoi? Maintenant c'est plus dévoilé comme avant. On est rentré dans la troisième phase. Exactement.
Mais l'action est la même.
Non, c'est pas que notre perception. Avant, il y avait deux vêtements, maintenant il y en a 1000.
Donc on perçoit plus.
La réalité a changé. La réalité a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu comprends, aujourd'hui, tu peux venir étudier la Torah toute ta vie sans ne pas ressentir une seule seconde qu'un juif qui n'a jamais rien étudié de sa vie venait au Beth Amikdash, fraction de seconde, il voyait quelque chose que toi, tu ne verras pas. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute.
Pourquoi sur cette culture, ça a été décroissant? Le premier temps, c'était bien. Le deuxième temps, et même avant.
Parce que plus on s'éloigne du Mont Sinaï, d'accord, et plus on va en décroissant. Mais ce qu'on explique, ce qu'on a expliqué après
du
dans le chapitre 36,
ou
du Mont Sinaï. Donc,
si
donc du Mont Sinaï qui a été matérialisé après par le Mishkan, qui a été matérialisé après par le Beth Amikdash, qui a été après matérialisé par le second Beth Amikdash, et plus on avance, plus on descend.
De l'autre côté, c'est-à-dire si on remonte de l'autre côté, ça veut dire qu'on s'éloigne du Beth Amikdash. C'est-à-dire que Abraham s'est éloigné.
C'est la courbe qu'on a expliquée la semaine dernière. La courbe qu'on a expliquée la semaine dernière, on a expliqué qu'on voit dans l'histoire juive que plus on avance dans les générations, et plus on encourage le travail personnel. Comme je dis la semaine, je dis qu'à l'époque, par exemple, de Maïmonide, on parle très peu du travail personnel. Travail personnel, comment une personne doit se travailler, etc. On en parle, mais apparemment, c'est pas ça le but de la Torah. Et on voit qu'en plus on avance dans les générations, et plus on nous demande de nous travailler intérieurement. Et ça, en vérité, quand on suit l'histoire, on voit qu'il y a clairement une courbe. Qu'au début, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, mais il n'y avait pas de travail à ce moment-là. On l'a reçu sans faire de travail. Ensuite, ça a été exprimé au travers d'un adaptateur, d'un transformateur qui est le Mishkan, qui lui-même est devenu plus tard le Beth Amikdash, qui lui-même est devenu plus tard le second Beth Amikdash, dans lequel il y avait moins de dévoilement, il fallait un certain travail, qui lui-même après a été détruit, et après plus on avance dans l'exil, et plus pour essayer de ressentir et de faire la volonté de Dieu, on doit se travailler personnellement le plus bas qu'on peut avoir. Ça veut dire on doit se travailler dans notre vie de tous les jours. Et plus on avance, et plus on essaye d'intégrer le divin le plus bas possible du monde.
Mais avant le Mont Sinaï, est-ce que c'était encore plus haut, c'était plus...
C'est autre chose. C'était pas du tout le même. On n'était pas dans cette même courbe.
Est-ce qu'on était dans la même courbe?
Non.
C'est ça, est-ce qu'on
une autre courbe. Non. Rien à voir. Là, on est dans une courbe, d'accord. Et la nouveauté, quand ma chair va venir, ce qui va se passer, c'est que au niveau tout en bas de la courbe, on pourra ressentir la même chose qu'on ressentait en haut. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça, c'est incompréhensible normalement. C'est-à-dire que là, normalement, on voit clairement que la courbe est en train de descendre et qu'elle n'a jamais monté. Elle ne monte pas. Jamais elle monte. Dans l'histoire juive, plus on avance et plus on essaye de découvrir le divin le plus bas possible.
Et c'est la même lumière,
d'accord,
de manière.
Oui, c'est la même lumière. Mais on rajoute encore un vêtement, et un vêtement, et un vêtement, et un vêtement. D'accord? Mais seulement ce qui va se passer quand Mashiach va revenir, c'est que, à ce moment-là, on va ressentir au niveau 0 la même chose qu'on ressentait au niveau 1000. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. Donc aujourd'hui, la seule manière de ressentir Dieu, c'est pas au travers d'un sentiment et au travers de gens ils croient qu'ils vont parler à Dieu, d'accord, au travers d'un coucher du soleil, voilà. Aujourd'hui, la seule manière de ressentir Dieu, c'est au travers de l'étude. Pourquoi l'étude? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'étude? Parce que c'est ça. Parce que l'étude, c'est un vêtement. C'est sûr que quand on prend l'étude, même si tu comprends pas tout à 100%, mais c'est sûr que tu attrapes la vraie chose. Maintenant, que tu le comprennes ou que tu ne comprennes pas. Alors peut-être le roi a mis un vêtement, 1000 vêtements, 10 000 vêtements. Mais on est sûr que l'étude, c'est vrai. Alors que le sentiment que j'ai quand j'essaye de m'envoler, d'accord?
C'est que par l'étude.
Étude, oui.
Dans une fleur, est-ce qu'on peut ressentir le fait que c'est une création d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut avoir cette perception ou au travers de
une forme d'étude?
La nature, c'est une bonne question. La nature peut nous aider à percevoir le divin. C'est-à-dire que des fois, on dit qu'il y avait des fois des gens, lorsqu'ils avaient du mal à étudier,
ils allaient dans la nature
pour s'inspirer. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils font dans la nature?
Qu'est-ce qu'ils font?
C'est là qu'ils essayent de réviser leur étude et d'essayer de mieux comprendre leur étude. Donc encore une fois, ça passe au travers de l'étude. Oui. On est d'accord?
Même quand ils regardent des choses, c'est
toujours. Même il y a des fois des tzadikins qui avaient besoin qu'on leur joue de la musique. Le roi David, par exemple, il avait besoin qu'on lui joue de la musique. Il y en a qui avaient besoin de beaucoup de choses pour s'inspirer. D'accord? Mais encore une fois, c'est une inspiration pour mieux comprendre l'étude. Parce qu'on est là pour ça.
Enfin, en soi, elle n'avait pas d'intérêt. Elle ne tenait que par rapport au fait qu'elle permettait de...
Ouais, c'est l'action. Le but, c'est d'arriver à l'action. Alors, dans les mots.
Donc on n'est pas obligé de venir à la synagogue, en fait.
Velached. Non. On a besoin de venir à la synagogue pour étudier.
Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, si on ne rentre pas dans ça... Le but, on a expliqué la semaine dernière, c'est l'action. Donc si c'est l'action, ça veut dire que pour arriver à l'action, donc on a besoin, les Chachamim nous ont déterminé, ils ont dit que pour arriver à l'action, il faut que ça passe au travers d'une prière qui est faite dans une synagogue, il faut que ça passe au travers de l'étude qui a été fixée par les sages, c'est eux qui ont fixé le mode d'emploi.
Ah voilà, la preuve.
D'accord. C'est eux qui ont fixé le mode d'emploi.
Ils sont venus au cours et
pas,
voilà.
D'accord. Velachen, c'est pour ça.
Quand il y a toute forme d'études.
Toute forme d'études.
Je sais,
mais il y a...
Toute forme d'études. Mais... avec quand même une certaine priorité pour l'étude qui amène à l'action.
Ah
oui, parce que rappelez-vous, dans la courbe, plus on va,
d'accord ?
Non, pas que la halakha, parce que la halakha c'est de l'action, mais pas que la halakha, toute étude qui amène à l'action.
Ça aperçoit mieux l'action au travers
qui nous permet d'agir, qui va nous permettre d'arriver à l'action. Parce que rappelez-vous, dans la courbe, plus on avance, et plus on essaye de découvrir Dieu dans les aspects les plus matériels de notre vie. Ce qui n'existait pas avant. Clairement, ça n'existait pas avant, ça. D'accord, donc on est dans la course. Alors, Velachen, c'est pour ça. Achar, shiya, mika, adam, marchafto, beinyan, bitulanal. Une fois que la personne va approfondir sa pensée, beinyan, bitulanal. Donc, zot, yeshivel, libo, donc ça sait que la personne doit réfléchir. Nous, maintenant, on va essayer de réfléchir. Bon. Moi, je suis pas tzadik. D'accord? Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je suis pas tzadik. Donc, je vois tout ça, t'es en train de me dire, la courbe. Mais le problème, c'est quoi? Seconde. C'est que moi, je me vois, je suis tout en bas de la courbe. Et je me sens comme un loser. Je dis, bon, moi, j'ai rien. Moi, j'ai tout perdu. Il y a des gens qui sont là, qui apparemment, pour eux, il n'y a pas de courbe. Il y a d'autres qui, pour eux, il y avait une courbe, mais ils étaient en haut de la courbe. Moi, je suis tout en bas de la courbe. Ça fait 2000 ans que ça dure, et la courbe, elle est descendue. Moi, je suis tout en bas.
Dans la courbe.
D'accord, je suis dans la courbe, mais je suis tout en bas.
C'est la crise.
D'accord.
Il y en a qui sont sortis de la courbe.
Alors, je me dis, bon. Je me dis, bon, j'ai pas envie de dire que je suis à côté de la plaque, mais je me dis, bon, j'aurais bien aimé naître et 2000 ans. C'est ce qu'on a envie de te dire. D'accord.
2700 ans.
Alors, Zot. Zot Yashiv El Libo. Et c'est là où on va arriver à ce que je vous expliquais au début du cours. Que si on n'arrive pas à ce niveau-là, il ne faut pas s'en vouloir. Pourquoi il ne faut pas s'en vouloir? Parce qu'on n'est pas conçu pour ça. Et un adaptateur qui est fait pour avoir du 12 volts, il ne va pas se plaindre pourquoi on ne lui donne pas du 1000 volts. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc s'il n'est pas fait pour ça, c'est-à-dire que le concepteur ne l'a pas créé pour ça. Le concepteur, c'est Dieu. On explique. Zot Yashiv El Libo. À ça, la personne doit réfléchir. Kimiyot, katan, sikhli, veshoresh, tishmati, miachil, liyot, merkava, mishkan, lihud, itbarer, que puisque mon cerveau est trop petit, en d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas le niveau du tzadik, et que moi, si j'avais la même perception que le tzadik, ben, ce qui serait passé, c'est que je serais parti. J'aurais explosé. D'accord? Il y aurait une surtension, je serais parti. Donc, puisque je ne suis pas comme le tzadik, behemet la mito. D'accord? Behemet la mito, et que je ne peux pas être vraiment comme le tzadik. Pourquoi il dit ici vraiment comme le tzadik? Parce qu'il y a des fois des gens dans leur vie qui des fois ils ont tellement étudié qu'ils pensent qu'ils sont des tzadikim. Il dit bon, tu peux penser si ça te fait plaisir de penser que t'es un tzadik, il n'y a pas de problème. Mais sache que dans la vérité des choses, tu n'es pas tzadik. 99,9% des gens de ce monde ne sont pas tzadik. Alors qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire que même si en vérité au fond de moi je sais que je suis très 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 loin. Et qu'en vérité, le peu que je crois que je ressens et que je perçois, c'est rien par rapport à ce qui existe vraiment. Mais achar zelet marshava dili tfisa ou maseget boidvarer. Donc là, il dit comment la personne doit se parler. Il dit, finalement, je ressens rien du tout. Et que le peu que je crois comprendre, en vérité, c'est rien du tout par rapport à ce que je devrais comprendre, par rapport à ce que comprenait ce qui était en haut de la courbe. Shum asaga baolam. Velo shemet minou me asagat avot vanevim. Qu'en vérité, je ne comprends rien. Et je suis très 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 très, très loin de ce que pouvaient percevoir les patriarches et les prophètes. Il azote, c'est pour ça. Puisque je suis très 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 loin, donc dans ce cas-là, c'est évident que je ne peux pas parler à Dieu au travers de ma propre réflexion. Puisque au travers de ma propre réflexion, je suis en bas de la courbe. Donc la seule manière, je suis en train de me parler là. La seule manière que je peux avoir de parler avec Dieu, c'est quoi? Et donc de faire partie de cette courbe. Et c'est l'eau. Mishkan ou Machon le shifto. Hu a esek betalmut Torah. Donc la seule manière que j'ai, c'est de suivre le mode d'emploi et d'étudier la Torah. Même si je ressens pas quand j'étudie la Torah, mais je suis en train de parler, je me dis écoute. Des fois des gens ils sont là en train de croire qu'ils sont en train de parler à Dieu, on dit écoute, quand tu crois que tu parles à Dieu, t'es pas du tout dans la courbe. Tu perds ton temps. Si tu parles pas à Dieu au travers de la Torah, ça veut dire avec des éléments que la Torah t'a donné, tu perds ton temps. Ça sert à rien. Deux secondes. D'accord? Donc c'est pour ça. La seule manière que je suis en train de me dire, ce que la personne doit se dire, il azote, comme il dit ici, et c'est l'eau mishkan ou machon le shifto, ou esek betalmut Torah. Donc aujourd'hui, le seul mishkan qu'on peut avoir, le seul adaptateur qu'on peut avoir, et même si c'est vrai que c'est un adaptateur qui est plus faible, c'est pas faux, c'est vrai, d'accord, mais c'est le seul. Celui qui veut essayer de prendre des raccourcis, il n'y a pas de raccourcis, c'est le seul adaptateur. Kefi apnei sheli. Donc, là il va essayer d'expliquer ce qu'on doit se dire. Donc la personne doit se dire, je dois essayer d'étudier selon mon temps. Donc je prends le temps que j'ai. Big view titim bayam ou valaila. Je vais essayer de me fixer du temps pour étudier la Torah jour et nuit. Ça ne veut pas dire tout le jour et toute la nuit. Ça veut dire jour et nuit. Ça veut dire que essayer de faire qu'au moins un petit peu du jour et un petit peu de la nuit, je vais essayer d'étudier un peu de la Torah. Comme s'expliquait l'Admor HaZaken, il disait quand on nous demande d'étudier la Torah, on nous demande de fixer un moment pour étudier la Torah. Ça veut dire quoi se fixer un moment? L'Admor HaZaken, qui est l'auteur de ce livre, il disait, c'est pas seulement fixer dans le temps, mais c'est fixé dans l'âme. C'est quoi fixé dans l'âme? Ça veut dire que ça doit être une constante chez nous que je dois étudier tous les jours. C'est pas simplement que je le fais parce que je dois le faire. On doit s'habituer au fait que je dois le faire et que ça fait partie de ma vie de tous les jours. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est la seule manière de faire partie de la cour. C'est ce que je dois me dire, c'est ce que je dois adresser, c'est ce que je dois dire à mon Yitzharara. Que la seule manière de faire partie de la courbe, c'est au travers de l'étude. Alors, l'étude, c'est quoi? Chacun doit faire selon son temps, un petit peu le matin, un petit peu le soir. Maintenant, chacun doit étudier selon ses capacités. Selon les capacités qui ont été données à chacun. Alors, comme il disait Rabbi Zusha Don Hippoli, Rabbi Zusha Don Hippoli était le frère d'un grand tzadik qui s'appelait Rabbi Elimelech. Il a vécu il y a à peu près 200 ans. Et il disait, quand je vais arriver en haut, on va pas me demander pourquoi tu n'étais pas comme ton frère, Elimelech. On va me demander pourquoi tu n'étais pas Zusha. En d'autres termes, pourquoi tu n'étais pas ce que tu devais être. Vous savez, en d'autres termes, ce qu'on a expliqué ici, c'est que si je ne suis pas conçu comme un autre, je ne dois pas me plaindre. Je ne dois pas me sentir ni catégorie A, ni catégorie B. C'est pas qu'il y en a un qui arrive à aller plus vite. Il n'y a pas plus vite, il n'y a pas moins vite. C'est individuel. D'accord. C'est, exactement. C'est personnel. Est-ce que moi, je suis parti à 100% de ce que je pouvais faire? Quand je vais arriver en haut, on va me demander, est-ce que tu étais Zusha? C'est ce qu'il dit ici. Une personne qui a fait la yeshiva, vous comprenez? S'il va venir, il va étudier que du chumash, on va lui dire, toi, t'aurais pu aller plus loin. Mais une personne qui n'a pas fait la yeshiva, et que pour lui, quand il fait du chumash, quand il arrive déjà à comprendre un verset de chumash avec la traduction avec Rashi, c'est un exploit. Quand il va arriver en haut, on va lui dire, bravo, kolakavad. Pourquoi? C'est ça. Kedat anitna l'école echad vechad. C'est selon la mesure qui a été donnée à chacun. Et c'est comme ça qu'on fait partie de la courbe.
La mesure qui a été donnée à chacun par rapport à son niveau de compréhension?
Oui,
par rapport
à ses aptitudes. Il y a deux choses.
Quand tu dis quelqu'un qui est parti à Yeshiva, c'est parce qu'il a eu la possibilité.
La chance, oui, bien sûr.
Mais son aptitude, peut-être que quelqu'un qui n'est jamais parti à Yeshiva, il y a une aptitude qui aurait été beaucoup plus importante.
Bien sûr.
Mais il n'a pas eu la chance.
Il n'a pas eu la chance, oui. On a plusieurs facteurs. On a d'abord le facteur de l'étude. Ça veut dire, est-ce que j'ai étudié ou j'ai pas étudié? Et on a un deuxième facteur qui est mon travail. Que même si j'étais à la yeshiva et que je sais étudier, mais peut-être que mon travail m'accapare tellement que j'ai pas le choix, je suis obligé de travailler de manière à ce que j'ai pas le temps, je peux pas. Il y a ces deux facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on te dit le minimum qu'il faut, c'est au moins étudier un petit peu le matin, un petit peu le soir. Un petit peu la nuit.
Quand on parle de l'étude, on dit que en fait c'est un peu le seul moyen de retrouver le Beth Amikdash.
Oui, la seule manière de retrouver le Beth Amikdash, le centre nerveux du monde, l'émanation divine, c'est au travers de l'étude.
Jamais la même chose. Est-ce que ça voudrait pas dire que peut-être...
Ça sera, comme il a dit Dab tout à l'heure, on ne percevra jamais la même chose. Mais c'est toujours la même chose. Quand tu enlaces le roi, que tu enlaces avec un vêtement ou 1000 vêtements, tu enlaces toujours le roi.
Mais alors ça voudrait pas dire que peut-être on va dire que Dieu nous a un peu laissé.
Non, pas du tout. Parce que Dieu, dans la courbe que Dieu a créée, il a créé un système dans lequel plus on avance dans le temps, et plus il faut aller chercher dans les particules les plus matérielles de notre vie. Donc on doit aller chercher aujourd'hui, par exemple, d'accord? Regarde un exemple qui a changé dans la dernière génération. Jusqu'à la dernière génération, les Juifs vivaient, j'ai pas envie de dire en ghetto, mais bon, dans un ghetto ou dans des mélars, ils vivaient entre eux. On voit clairement qu'il y a cette tendance à changer dans la dernière génération. Aujourd'hui, les Juifs ne vivent plus, enfin dans la dernière génération, les dernières dizaines ou centaines d'années, ça a changé. C'était pas comme ça avant. Quand on lit l'histoire, c'était pas comme ça avant. D'accord? Il y a bien quelqu'un qui a participé à ce point. Si ça n'a pas changé il y a 200 ans, pourquoi ça change maintenant? La raison est très simple, c'est parce que plus on avance dans le temps, et plus Akadosh Baruch Hu cherche à ce qu'on aille chercher les particules les plus lointaines possibles. Donc maintenant Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, maintenant quand vous étiez dans un ghetto, ça va, j'ai vu ce que vous pouvez faire. Maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? On va vous disperser. Et vous allez devoir quand même rester religieux, continuer à faire la Torah. Il y a eu une période dans laquelle on n'a pas tenu. La majorité des juifs, pour l'instant, n'a pas tenu. Et progressivement, on est en train d'essayer, et je fais deux, et je fais trois. Ça veut dire qu'on voit clairement ce que je viens d'expliquer, que dans la cour, plus on avance, et plus on descend dans le matériel. Plus on descend. C'est ça le but. Le but que Kadosh Baruch Hu veut, c'est que on intègre le plus possible le matériel, et que dans le matériel, on garde le divin. Et on le voit clairement, quand on suit la courbe, tu verras après, tu réfléchiras, dans la courbe, on voit clairement cette tendance-là. Clairement.
C'est quand on arrivera alors à finir avec le matériel, qu'en fait, ce sera la fin, on va dire.
Oui, c'est pas la fin, ce sera le début.
Mais finalement, on en prend proportionnellement...
La fin du début.
Proportionnellement, peut-être que l'effort à tenir est aussi fort que celui qui était à l'origine.
Bien sûr, mais je suis en train de dire plus que ça. Je suis en train de dire qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas d'effort.
Voilà, donc là...
Il n'y avait pas d'effort. Imaginez-vous, aujourd'hui c'est une période de crise. Imaginez-vous une période, l'âge d'or, dans laquelle il y a de l'argent pour tout le monde. Il n'y a pas d'effort. Prends pas la tête à calculer, il y a de l'argent pour tout le monde. Tu prends, tu viens, tu te sers. Après, avec le temps, plus on descend, plus c'est la crise. Et plus on se dit, bon, maintenant tu vas te suffire de 10 000 euros. Maintenant, de 5 000. Maintenant, après, tu vas te suffire de 1 000 euros.
Impossible.
D'accord, impossible.
Mais pourquoi il donne ces périodes
dans le... Si, si, bientôt on va te montrer que c'est possible.
C'est méchant.
Non, c'est... Bon, 1000 euros par personne.
Mais on va te montrer que c'est possible.
C'est mort.
Dis-moi de quoi t'as besoin, j'étais
non, c'est mort, ouais. Tu peux.
Il y a des gens qui peuvent s'en sortir avec ça.
Bien sûr.
S'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre.
Il y en a qui s'en sortent avec 1000 euros.
Alors, je reviens à mon histoire de l'étude de la Torah. Donc aujourd'hui, on doit faire ce qu'on peut. C'est quoi notre Mishkan aujourd'hui, on a dit? Notre Mishkan aujourd'hui, rappelez-vous, c'est l'étude. D'accord? Maintenant, l'étude. Donc là maintenant, jusqu'à la fin du chapitre, il va essayer d'expliquer comment aujourd'hui une personne, aujourd'hui en 2010, une personne en 2010, peut essayer de faire sa mission, de faire partie de la cour. Donc premièrement, on a dit l'étude. Le plus important, c'est l'étude. Même un petit peu le matin, un petit peu le soir, même un peu inversé. Oui.
Je comprends pas. Tu dis que le sadique, il a une capacité de compréhension et d'appréhension.
De perception, pas de compréhension. Oui.
D'accord. Et pourtant, on dit bien que le divin maintenant, aujourd'hui, il s'acquiert d'une certaine manière par l'étude de la Torah.
Oui, mais encore une fois, parce que
tu disais qu'il ne pouvait pas atteindre.
Ce que j'ai expliqué, c'est que le tzaddik, il a la même perception qu'on a eue au Mont Sinaï. Et au Beth Amikdash. Ça veut dire que lui, il a pas besoin de passer par le Beth Amikdash. Donc lui, il a une certaine perception. Il a pas besoin de passer par tous les adaptateurs et tous les transformateurs que nous on passe. J'ai pas dit que le tzaddik ne doit pas étudier la Torah, Chas
v'Shalom. Non, mais il a pas besoin de,
mais il a pas besoin de ça pour percevoir. Bien sûr qu'il est savant. Mais c'est pas sa qualité. Ça veut dire qu'on a eu des tzadikim qui étaient beaucoup moins savants que les rabbinis de la génération.
Mais il connaissait
la Torah. Mais bien sûr qu'il passe du temps pour étudier la Torah, comme tout le monde, c'est sûr ça.
Mais pas... pourquoi Dieu il crée par exemple cette période? Je sais, par exemple, tout à l'heure tu parlais de l'Altor, enfin ce genre de choses. Par exemple, il va y avoir une guerre après un âge d'or, c'est des choses qui se répètent dans l'histoire.
Oui. Encore une fois, et quand on analyse, je répète encore une fois, quand on analyse la tendance de l'histoire, on voit que on a eu plusieurs périodes dans l'histoire, mais ce qu'on voit clairement, c'est que plus on avance et plus on descend. Ça, on le voit clairement. Si juste on se compare à nos parents et à nos grands-parents, on voit tout de suite qu'il y a une descente, il y a une chute. Et on le voit clairement. Dans toute l'histoire, on retrouve ça. C'est-à-dire que le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on descende le plus bas possible, et que quand même, on continue à faire Torah et Mitzvot. D'accord? Si tu veux, j'expliquerai après cette notion plus longuement, parce que c'est une notion qu'on a expliquée dans le chapitre 36. Alors, Be'ilchot, donc Be'ilchot Talmud Torah. Comme ce que les Chachamim ont dit, que même si j'étudie un chapitre le matin, un chapitre le soir, je suis quitte. Mais encore une fois, dans quel cas je suis quitte de la mitzvah d'étudier la Torah, si j'étudie un chapitre le matin, un chapitre le soir, dans quel cas je suis quitte? Je suis quitte si c'est la seule chose que j'arrive à faire. D'accord? Si je peux pas faire plus que ça, parce que je rentre le soir, je suis très fatigué du travail, je peux pas plus que ça.
C'est difficile de savoir quel est le métronome.
Ou basé. C'est très très dur. Ismach libo veiten le da'al chelko besimcha ou vetuv levav al shezacha liyot ushpisra nikbura. Et donc avec ça, quand une personne va réfléchir à ça, donc là on s'adresse à cette personne-là qui se dit, mais attends, finalement je suis à côté de la plaque. On lui dit, non, t'es pas à côté de la plaque. Parce qu'on lui dit que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, que tu sers Akadosh Baruch Hu à 100%, à ton 100%, de la même manière que le tzaddik lui aussi sert Akadosh Baruch Hu à son 100%. Et que même si toi, le maximum que tu as pu faire, c'est étudier un tout petit peu le matin, un petit peu le soir, et encore, c'était très dur, tu t'es endormi au milieu, etc. Mais c'est ton 100%. Donc tu dois être content parce que tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Ce que Dieu attendait de toi, tu l'as fait. Pa'amaim becholium. Tu l'as fait deux fois par jour. Kefi ha'et ve'apnai shelo. Tu ne l'as fait, donc tu l'as fait selon le temps que tu avais, d'accord? Selon le temps que tu disposais. Qui est misat yado achar echiblo selon l'argent que Dieu t'a donné.
Tnaï, c'est quoi, c'est
le temps. Bon, ça veut dire qu'après, avec le temps, quand t'as Kadosh Baruch Hu et que les affaires vont mieux, il faut étudier plus. On va dire, si les affaires vont mieux, alors maintenant, je travaille plus pour gagner plus.
D'accord? C'est le contraire,
hein. En principe, notre cerveau fait le contraire. Il dit, ah, si maintenant les affaires marchent mieux, ça veut dire que si je travaille plus, elles peuvent marcher encore mieux.
Non, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, plus j'étudie, moins les affaires marchent, non?
Non, c'est sûr. Bon. Je pose des questions bizarres aujourd'hui, hein. Excuse-moi.
C'est bon ça de voir. Hein? Pour
te mettre à l'épreuve, je trouve. Voilà. Donc, non, c'est pas pour nous. C'est pas Dieu qui éprouve la personne.
C'est pas souvent qu'il y ait qu'à deux tables.
Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas vu ça dans ma vie, en tout cas. Kémissat yado achar ichriv hachem lo. D'accord? Donc, chacun doit étudier comme ce qu'il peut, et avec ça, il accomplit sa mission. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que c'est déjà l'heure. Et Bezrat Hashem la semaine prochaine. On va expliquer qu'en vérité, on doit retrouver Dieu au travers de son étude. Mais finalement, une personne comme ça peut se sentir, j'ai pas envie de dire grugé, mais bon, il peut se dire, bon, d'accord, je sais que Dieu, il dit que j'ai accompli ma mission. Que si j'étudie 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, j'accomplis ma mission. Mais quand même, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. C'est vrai, quand on réfléchit des fois, une personne, il fait un certain bilan dans sa vie, je sais pas, à 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il fait un bilan, et il dit, attends, finalement, à quoi se résume mon étude? À quoi se résume ma courbe? 10 minutes le matin, 10 minutes le soir? Disons, elle est un petit peu plus, mais c'est rien par rapport à ce que j'aurais dû faire. Je travaille, j'ai pas le choix, je suis obligé de travailler. Donc je me dis, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine que je ne peux pas être plus que ça dans la Torah. Et ça, c'est le cours la semaine prochaine dans lequel on va répondre à cette question. On va expliquer que, après, on doit essayer de s'efforcer, on va donner des techniques la semaine prochaine, pour essayer de retrouver Dieu, même au courant de la journée, même dans le travail. Mais attention, pas facile. Je sais que vous vous dites, oui, c'est facile, je travaille pour gagner de l'argent, pour servir Dieu, c'est très compliqué. Il va donner des techniques la semaine prochaine, d'accord? Pour expliquer comment au travers de l'argent qu'on va gagner, au travers du travail qu'on va fournir, et au travers de différents détails qu'on va expliquer la semaine prochaine, on pourra rendre notre travail, lui aussi, un mini Mishkan, un mini Beit HaMikdash. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, jusqu'à présent on a expliqué que le Beit HaMikdash d'aujourd'hui c'est quoi? C'est l'étude. On va expliquer après que le Beit HaMikdash personnel peut être également au travers de son travail. Notre travail, notre vie de tous les jours peut elle aussi en devenir un Beit HaMikdash personnel, un sacrifice personnel. Donc c'est la question que tu as posée au début du cours. Pour avoir la réponse, il faut que tu reviennes la semaine prochaine. Oui, c'est qu'au travers du sacrifice de la vie, on peut retrouver un certain Mishkan. Donc, je voudrais résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Donc, si on peut résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a expliqué le concept de la courbe. D'accord? Aujourd'hui, on a expliqué le concept de la courbe. Allez, messieurs. Aujourd'hui, on a expliqué le concept de la courbe. On a expliqué que la courbe, en vérité, est un adaptateur, la courbe est un transformateur, et que nous qui ne sommes, enfin celui qui n'est pas tzadique, celui qui est tzadique tant mieux pour lui, mais moi je ne suis pas, troisième fois. Non, parce que j'attends qu'un de vous me dise, mais moi je suis tzadique. Celui qui est, ça peut être un secret. Je me rappelle à la yeshiva, on disait, quand des fois il y avait une personne qui se prenait pour un tzadique, celui-là, il fait partie des 36 tzadikim cachés, parce que donc, vous savez que dans chaque génération, il y a 36 tzadikim cachés. Et on disait, même lui, il sait pas qu'il est tzadik. Bon, enfin, parenthèse. Donc, on a expliqué le concept de la courbe, on a expliqué qu'on est obligé de passer par cette courbe pour percevoir le divin. C'est quoi la courbe? La courbe, c'est le Beit HaMikdash. Donc, à la base, les tzadikim n'ont pas besoin de cette du Beit HaMikdash pour percevoir le divin. Mais après, nous qui font partie du peuple, on a besoin du Mishkan qui est devenu après le premier Beit HaMikdash, qui est devenu après le second Beit HaMikdash, qui est devenu aujourd'hui, on a expliqué, la halakha. D'accord? Et c'est au travers de l'étude qu'on va faire partie de cette cour qu'on va percevoir le divin. Mais ce qu'on expliquera la semaine prochaine, c'est que une personne qui étudie, attention, c'est uniquement dans le cas où il étudie, il a la possibilité de rendre le restant de sa journée, lui aussi, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Comment, pourquoi et les détails, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. On expliquera la semaine prochaine comment 24 heures sur 24, un juif peut faire de sa vie un sanctuaire pour Dieu. Bien sûr, ce ne sera pas comme les patriarches, qui eux étaient le char dans la main de Dieu, mais on peut rendre toute notre journée un adaptateur, un transformateur pour percevoir le divin, comme on verra si Dieu veut la semaine prochaine.